donc quelques dizaines de minutes. Après le direct de cette émission, il va y avoir la cérémonie des Césars.
Des Césars, oui, qui j'espère pourrait pour une fois sélectionner Le Havre comme meilleur film, meilleur réalisateur.
Oui.
Ce serait, ce serait une bonne surprise.
Parce qu'en général, ce genre de cérémonie ne sélectionne pas des films trop.
Non, les films sélectionnés sont tout aussi intéressants, remarquables, bien faits. Mais c'est vrai que c'est une cinématographie Aki Kaurismäki qui est très particulière et par exemple pour les personnes qui n'ont jamais vu de ces films, il faut au moins les prévenir justement que c'est différent. Ils vont peut-être être un peu décontenancés par surtout un rythme assez posé, je dirais pas lent mais plutôt nonchalant, une frontalité, une caméra fixe qui aussi se pose. Un humour pince sans rire, un humour noir très décalé. Et c'est vrai qu'il faut un petit temps pour rentrer dans cet univers, un peu vieillot parce que les décors sont toujours un mélange des années 50, 60, avec des objets tout à fait désuets, des habits aussi complètement dépassés, une lumière assez brunâtre. Et on est toujours un peu, il y a une mélancolie, il y a une certaine sorte de désespérance, mais qui est complètement rééquilibrée par un humour et une humanité. Une humanité, les personnages, alors, Kaurismäki a l'habitude de faire de ses personnages principaux l'histoire d'un loser, mais un loser digne, un loser absolument attachant, à qui il arrive des choses épouvantables. Dans certains films, c'est terrible. Et dans beaucoup de films, à la fin, c'est presque miraculeux. Par exemple, au loin s'éloignent les nuages. On se dit qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Et si. Hein. Et là, c'est le cas dans ce film-là. D'ailleurs, son titre porte bien son nom, Le Havre. C'est vraiment le havre de paix, le refuge. Et c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'une entraide, d'une solidarité autour d'un enfant noir qui doit avoir une douzaine d'années et qui s'échappe de la police. Et il y a tout un quartier qui s'entraide pour l'aider. L'aider à quoi? À passer comme tout immigré clandestin en Angleterre pour aller retrouver sa mère. Et d'un sujet absolument d'actualité, absolument social, absolument désespérant, Kaurismäki nous fait un conte de Noël. C'est pas pour rien qu'il est sorti en salle le 21 décembre. Et vraiment, il nous transporte dans un monde complètement en dehors de la réalité. C'est complètement irréaliste. Il arrive des miracles. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et on a vraiment envie que la vie soit comme ça. Et voilà, ça c'est toute la force de ce film. Si on n'a jamais vu de film de Kaurismäki, il faut aller voir celui-là parce que c'est vraiment un film qui donne l'espoir, qui, tout en restant absolument lucide sur notre société. Ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est qu'il joue sur des anachronismes. On est au Havre actuellement, avec tous ces décors très vieillots. Ça fait référence au cinéma des années 30.
Little Bob Story, parlez-nous de Little Bob Story.
Little Bob Story, il n'est plus tout jeune. Mais en même temps, il nous montre les actualités qu'on a vues tous, de la jungle de Calais qui a été nettoyée par la police. Donc tous ces immigrés clandestins qui ont été... évacués, on ne sait pas trop où. Et là, en effet, la même chose, il y a dans les containers sur le port du Havre, on entend des voix humaines. Donc, il y a le commissaire de police qui vient pour faire ouvrir ces containers, à l'intérieur desquels il y a des Africains.
Commissaire de police interprété par Jean-Pierre Darroussin, exceptionnel.
Exceptionnel, exceptionnel. Tous les comédiens sont exceptionnels. Ils sont dans des registres inhabituels. Bon, sauf peut-être André Wilms qui joue le rôle principal de Marcel Max. Marx, qu'est-ce que je dis? Donc Darroussin, le commissaire. Il y a Pierre Etex qui joue un rôle d'un docteur. Il y a surtout Jean-Pierre Léo qui fait le rôle du délateur quand on la connaît, enfin, ça fait évidemment référence aux 400 coups, où lui, il était plutôt dans le rôle du petit garçon qui s'échappe et qui est clandestin. C'est absolument un délice. Vraiment, c'est un film qui fait du bien. Et donc, pour revenir à Little Bob, tout ce quartier se solidaire, essaie d'agir pour sauver ce petit garçon, retrouver une partie de sa famille, comment l'aider, mais il faut de l'argent hein, pour passer en Angleterre. Donc, quoi faire ? Donc, Little Bob, qui s'appelle dans la vraie vie Roberto Piazza, joue son propre rôle. Il est natif du Havre, hein, c'est ce rocker vraiment mythique, historique français. Et donc, ils vont le voir pour qu'il monte un spectacle et qu'il joue pour rassembler des fonds. Ce que fait Little Bob dans le film. Et Corisse Mackie nous offre un plan séquence magnifique, une chanson en entier de Little Bob qui chante plantaille face à la caméra avec son cuir rouge, avec sa banane gominée sur la tête. C'est un bonheur, quoi. Vraiment, c'est.
Vous partagez le même enthousiasme, Michel Brière.
Absolument. Moi, je rajoute deux petites choses, mais je le dirai autrement que Nathalie vient de le dire. Moi, j'étais frappé par le travail sur les couleurs. Le décorateur a fait un immense travail sur les couleurs des murs, sur ce qui est affiché, les petites écritures qu'on voit. Et puis après, tous les objets auxquels vous avez fait allusion, le fait qu'on se déplace en 403, où on voit une dauphine, je crois, à un moment. Enfin, voilà. Et puis, il me semble, si je ne me trompe, que de temps en temps, dans les dialogues, Wilms prononce un ou deux alexandrins. Enfin, il a une parole qui n'est pas du tout une parole naturelle. Mmh. Et tout ce décalage va apporter en fait de la poésie. Il faut accepter de rentrer dedans, mais ce sont des conventions. Et à partir du moment où on rentre dans ces conventions, j'ai envie de dire comme à l'opéra, on rentre dans des conventions énormes. Ben, à partir du moment où on rentre dans ces conventions, on se laisse entraîner et on va vraiment vers quelque chose qui est de l'ordre du bonheur. Enfin,
ah, absolument, absolument. C'est vraiment c'est ressourçant. Peut-être que je peux citer Corisse Mackie qui dit, qui est quelqu'un d'assez pessimiste, est extrêmement mélancolique. Il dit, je suis de plus en plus pessimiste, je ne crois pas que les choses vont changer dans le bon sens. Du coup, je pense que le cinéma peut être au moins une échappatoire, à défaut de pouvoir changer les choses. Donc un cinéma qui met en avant les valeurs de solidarité comme un contrepoint à une réalité trop sombre. Voilà, donc c'est vraiment
Ah oui, et puis il y a son refus. Enfin, il a été invité à Hollywood et il a refusé d'y aller. Et il dit que la part nostalgique qui nous apparaît comme nostalgique, c'est aussi simplement une culture qui refuse l'impérialisme culturel dominant, quoi. Enfin, en disant, moi, je me situe pas dans les objets culturels qu'on nous impose, quoi. Voilà.
Absolument, c'est quelqu'un qui fait un film avec très peu d'argent. Je crois qu'il tourne une prise par plan. Je crois qu'il n'a absolument pas les moyens d'en tourner deux, encore moins trois. C'est des tout petits moyens. C'est une équipe très soudée. Il y a Cathy Outinen qui porte le nom d'Arletty, qui est la femme de Marcel Marx dans l'histoire, qui tombe malade, qui va à l'hôpital, qui est l'égérie de Corisse Mackie, qu'on retrouve dans tous ses films. C'est vraiment une équipe très soudée qui refait chaque fois des films ensemble. Il a fait toute une série. C'est son 19e film. Hein.
Ah oui,
quand même. C'est pas un débutant. Il a fait toute une série de films avec un groupe de rock qui s'appelle les Leningrad Cowboys. C'est vraiment une question d'amitié, de conviction profonde.
Les auditeurs doivent le connaître pour Un homme sans passé. L'homme sans passé qui a été son film le plus connu, je crois.
Tout à fait. Et c'est aussi quelqu'un qui travaille la musique d'une manière complètement originale. Là, dans ce film-ci, il y a des chansons de Damia, il y a du rock. C'est complètement saugrenu, à la limite. On ne s'attend jamais à la musique qu'il va nous proposer. Et comme la forme est extrêmement posée, justement, cette musique accentue le décalage et nous transporte encore plus dans cette atmosphère tellement singulière, C'est vraiment un cinéma.
Et ce que j'ai apprécié, oui, tout à fait, ce que j'ai apprécié, c'est que cette singularité, elle n'est pas séduisante, elle n'est pas séductrice, pardon. Pas si elle est assez séduisante, mais elle n'est pas séductrice. Mmh. Et je veux dire, c'est jamais mélo. On vient pas nous chercher en nous tirant des larmes. La finale est étonnante au moment où ils se séparent.
Le sujet pourrait s'y prêter.
Tout à fait. C'est welcome, en fait, le scénario. Hein.
Ouais.
Mais alors là, on n'est pas du tout dans le mélo. Et à la fin, la manière dont ils se disent au revoir avec le petit garçon, ils se tendent la main, comme ça, au revoir. Et puis, ils savent qu'ils ne se reverront jamais. Et le gamin, il a quand même été sauvé, c'est clair. Il a été sauvé par eux. C'est pas la tendresse ou les émotions larmoyantes qui font le génie de ce film, c'est pas du tout ça, c'est la poésie, c'est un décalage poétique, je trouve.
Et puis c'est très drôle aussi.
Oui, alors on sourit, bien sûr.
Il y a pas du tout.
C'est le film de l'année, donc, Nathalie Hureau.
Pour moi, oui.
Pardon.
C'est le film de l'année. Pour Michel Brière, on l'a entendu, oui.
Ça fait, oui, partie d'un des films de l'année, ça c'est sûr.